Bienvenue à nouveau autour du lavoir avec les lessiveuses. Aujourd'hui, on se réunit avec Anissa, Julie, Mathilde et Manon. On s'échange des textes d'autrices qui traitent des thématiques du rapport au corps et on s'en fait quelques lectures. Attention, ça va encore mousser. Pour nous échauffer un peu et nous donner la pêche, on va se faire plaisir en lisant le préambule d'un de nos nouveaux textes sacrés, La King Kong Théorie de Virginie Despentes.
Bad lieutenant. J'écris de chez les moches.
Pour les moches.
Les vieilles.
Les camionneuses.
Les frigides.
Les mal baisées.
Les imbaisables. Les hystériques.
Les tarés.
Toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf.
Et je commence par là pour que les choses soient claires.
Je ne m'excuse de rien.
Je ne viens pas me plaindre.
Je n'échangerai ma place contre aucune autre. Parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire.
Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire. Qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école.
Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent.
C'est dit sans la moindre ironie.
Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celles-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle. Belle a changé l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier, et que je recommence aujourd'hui.
Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être une exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que femme. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là.
On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes, qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher.
On a toujours existé.
On n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement des personnages féminins, au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en 2 chapitres, elles jouissent en 4 lignes et elles aiment tout le sexe.
La figure de la loseuse de la féminité m'est plus que sympathique. Elle m'est essentielle.
Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique.
Je préfère ce qui n'y arrive pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif.
Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfant. Je parle de ma place de femme, toujours trop tout ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on.
Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité.
C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris.
C'est d'ici que j'écris, en tant que femme non séduisante, mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir, de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera.
Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver.
Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça.
Je me suis toujours sentie moche. Je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a sauvée d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmenée plus loin que la ligne bleue des Vosges.
Je suis contente de moi, comme ça, plus désirante que désirable. J'écris donc d'ici.
De chez les invendus.
Les tordus.
Celles qui ont le crâne rasé.
Celles qui ne savent pas s'habiller. Celles qui ont peur de puer.
Celles qui ont les chicots pourris.
Celles qui ne savent pas s'y prendre.
Celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux.
Celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles.
Les grosses putes, les petites salopes.
Les femmes à chatte, toujours sèches.
Celles qui ont des gros bides.
Celles qui voudraient être des hommes.
Celles qui se prennent pour des hommes.
Celles qui rêvent de faire hardeuse.
Celles qui n'en ont rien à foutre des mecs, mais que leurs copines intéressent.
Celles qui ont un gros cul.
Celles qui ont des poils drus et bien noirs qui ne vont pas se faire épiler.
Les femmes brutales, bruyantes.
Celles qui cassent tout sur leur passage.
Celles qui n'aiment pas les parfumeries.
Celles qui se mettent du rouge, trop rouge.
Celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie.
Celles qui veulent porter des fringues d'hommes et la barbe dans la rue.
Celles qui veulent tout montrer. Celles qui sont pudiques par complexe.
Celles qui ne savent pas dire non. Celles qu'on enferme pour les mater.
Celles qui font peur, celles qui font pitié.
Celles qui ne font pas envie.
Celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face. Celles qui rêvent de se faire lifter.
L'hyposucir.
Péter le nez pour le refaire, mais qui n'ont pas l'argent pour le faire.
Celles qui ne ressemblent plus à rien.
Celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger.
Celles qui ne savent pas être rassurantes. Celles qui s'en foutent de leurs enfants.
Celles qui aiment boire, jusqu'à se vautrer par terre dans les bars. Celles qui ne savent pas se tenir.
Aussi bien et dans la foulée, que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs.
Ceux qui voudraient l'être, mais ne savent pas s'y prendre.
Ceux qui ne savent pas se battre.
Ceux qui chialent volontiers.
Ceux qui ne sont pas ambitieux.
Ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs.
Ceux qui sont craintifs.
Timides.
Vulnérables.
Ceux qui préféraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler.
Ceux qui sont délicats.
Chauves.
Trop pauvres pour plaire.
Ceux qui ont envie de se faire mettre.
Ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux.
Ceux qui ont peur tout seuls le soir.
Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante,
mais pas pute,
bien mariée,
mais pas effacée,
travaillant,
mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme,
mince,
mais pas névrosée par la nourriture,
restant indéfiniment jeune,
sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique,
maman épanouie,
mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école,
bonne maîtresse de maison,
mais pas boniche traditionnelle,
cultivée,
mais moins qu'un homme.
Cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée, nulle part.
Je crois bien qu'elle n'existe pas. Got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, if you want my love. Get up, if you want my love.
Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home.
Bonjour, bonjour, c'est Julie. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte écrit par mon amie Savannah. C'est un texte qu'elle a appelé « Travers ». la femme. J'ai l'impression que mon corps ne m'appartient pas. C'est presque ironique cette impression que j'ai de le porter, comme un poids que je traîne et que j'aimerais juste laisser au bord de la route pour m'alléger. Alors qu'en réalité, mon corps me porte. Je pense être résiliente parce que mon corps l'est. C'est lui qui continue quand je marche sur les braises de ma propre vie. Quand tout explose, c'est lui qui respire. Et pourtant, je ne peux pas le reconnaître. Parfois, j'imagine mon corps comme une carte. Je ferme les yeux et j'imagine les sillons de ma peau comme des routes, des chemins, des fleuves et des rivières. Toutes ces lignes dessinées par mes pores délimitent des zones, des petits carrés de vie sur ma peau élastique, étirée, blessée et recomposée. Ces chemins deviennent les souvenirs de ma vie, de tout ce que j'ai tracé, de tout ce que j'ai vécu, subi ou choisi. Je pense en réalité que la peau est plus intelligente que le cerveau. Cette membrane retient tout. Ma tête sélectionne les souvenirs dont elle se souvient, mais ma peau reconnaît tout. Quand je rentre chez mes parents et que mes plantes de pied sentent la familière douceur du tapis du salon, c'est comme si tout mon corps se rappelait de toutes les fois que j'ai marché à cet endroit. Quand il fait noir et que je rentre dans notre lit, et d'une caresse simple, elle me touche le visage. Toutes les parcelles de mon corps se réveillent et je me rappelle de la sensation de l'amour. Je sens que ma joue se souvient de toutes les fois que ma peau s'est hérissée à cette sensation si singulière. Et parfois, lorsque quelqu'un me parle d'une blessure, ma peau crie de douleur depuis une cicatrice dont je ne connaissais pas l'existence. Ma main touche cet endroit, je ferme les yeux et je me remémore ce qui a marqué mon corps à cet instant que j'ai oublié. C'est comme si mon corps rendait réel ce que je vis, ce que j'entends et ce à quoi je pense. Certes, on peut vivre dans le monde dessiné dans notre tête, mais rien n'est achevé. C'est comme se regarder vivre sur un écran, le corps rend réel. C'est lui qui est en contact avec le monde. Quand je suis dans un musée, face à un tableau qui me bouleverse, j'ai toujours cette forte envie de toucher la toile, pour vraiment ressentir les émotions que la peinture réveille en moi. C'est étrange, comme si seulement voir la peinture n'était pas assez fort. Mon corps a besoin d'enregistrer par le contact avec ma main la sensation qu'elle procure. C'est pareil avec la vie, en fait. Ce contact rend réel ce que l'on vit, que ce soit le vent glacial qui transperce la peau et propage le froid, ou le soleil qui fait apparaître un sourire sur mon visage, juste par sa simple présence. Peut-être que c'est pour ça que je n'arrive pas à réellement voir mon corps ou à l'aimer, puisqu'il ne peut pas filtrer, justement. C'est devenu mon ennemi, car il ne peut pas sélectionner les réalités, et donc je ressens ce qu'il vit comme une condamnation. Comme quelque chose dont je ne peux pas me protéger, à moins d'ignorer qu'il est là. J'ai pas de contrôle sur ce qu'il vit, alors je tente de contrôler ce à quoi il ressemble. Ce n'est pas plus simple, c'est juste la seule solution. J'ai peur des cicatrices pour cette raison. Elles me rappellent en permanence ce que je voudrais oublier. J'ai toujours été profondément convaincue que je ferais partie de ces personnes qui recouvrent les marques sur leur corps, qui les cachent. Je n'ai jamais compris ceux qui ne le font pas, à vrai dire. Non, c'est pas vrai. Je les ai toujours admirés, en réalité. Pour moi, c'était la métaphore ultime de l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, ce concept qu'on nous rabâche sans cesse depuis qu'on est capable de voir les gens comme des individus. Autre chose dont je suis convaincue, c'est que l'on porte en nous ce que les autres ont vécu. Alors qu'on ne s'étonne pas que je ne sois pas capable de me regarder dans un miroir, puisque les générations qui m'ont précédée étaient obligées de cacher leur corps pour surtout ne pas prétendre qu'ils servent à autre chose qu'à la reproduction. C'est un bel objectif, l'acceptation de soi, pourtant. J'aimerais un jour y arriver, ou faire partie des gens qui n'en ont pas besoin, ceux qui sont arrivés à l'indifférence du regard des autres sur leur corps, qui ne voient plus que le leur. L'indifférence, c'est le dernier pas, le but même. Par exemple, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un et qu'on ne devrait pas l'être, l'indifférence est la libération. C'est le moment qui signifie qu'on peut enfin regarder au-delà de cette relation, qu'elle est devenue souvenir, qu'on peut enfin la laisser partir. Ce n'est peut-être pas pareil avec le corps, quoique peut-être que cela pourrait désigner le moment où on fait le deuil des idéaux qu'on a projetés sur soi. le moment du deuil de ce que l'on devrait être et de ce à quoi on devrait ressembler, le deuil de la haine et des violences que l'on s'est infligées. J'ai peur de ne jamais atteindre ce moment. J'aimerais juste ouvrir les yeux et me voir. Ça paraît si simple, banal même. Pourtant, je pense qu'en réalité, je ne l'ai jamais fait. Pouvoir m'asseoir devant mon miroir, sans rentrer le ventre, croiser les jambes pour faire une pause et lever la poitrine pour que mes seins paraissent plus droits tout en souriant. Quand je le fais, et que je suis face à mon miroir, en essayant de plier mon corps dans tous les clichés de la beauté, je ne pense pas à moi-même. Je me vois pas face à mon miroir gris avec des traces de dentifrice et un lavabo blanc et le lisseur de ma coloc qui tient en équilibre sur le rebord de l'évier. Non, je ferme les yeux et j'essaie de me voir dans un magazine avec le ventre plus plat, sans la graisse qui pend sous mes bras et mes hanches couvertes de vergetures. Je fais alors en sorte que ce moment soit le plus rapide possible pour que mon cerveau n'ait pas le temps de nommer toutes les parties de mon corps et prendre conscience que je ne suis pas sur la couverture printemps de Vogue. Je construis encore une fois une illusion pour que les choses me fassent moins peur. Non, pour fuir tout simplement en fait. J'ai tellement perdu de temps à ignorer ce à quoi je ressemblais. Je me suis déjà posé la question. Est-ce que quelqu'un saurait vraiment se décrire? Est-ce que quelqu'un est capable de fermer les yeux et nommer exactement chaque partie de soi-même et de trouver les adjectifs qui les qualifient vraiment? Pendant très longtemps, je ne connaissais même pas la couleur de mes yeux.
En als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens
Avec Anissa, on va vous proposer la lecture du liminaire d'un texte qui s'appelle Corps. En fait, c'est un recueil de textes d'autrices québécoises qui parlent chacun et chacune du rapport à leur corps et de comment ce rapport il est intime autant qu'universel. Et ce texte a été écrit sous la direction de Chloé Savoie-Bernard. Certains sont obsédés par l'ajustement des lumières qu'il y a dans une pièce. Ils ferment rideaux et stores, multiplient les lampes, allument puis éteignent des bougies, à la recherche de l'éclairage idéal. D'autres ne jurent que par les chiffres, les équations, savent toujours la température, l'heure, le nombre de pas qu'ils ont fait durant la journée. Je suis obsédé par les corps. Je pourrais tout dire de celui du barista au café ce matin. Épaules tombantes, sourire franc, et dans les cheveux, de petits résidus blancs laissés par du gel. Je pourrais vous parler de celui de la fille qui marchait devant moi sur le trottoir. Corps dessiné par le sport, crossfit, triathlon, mains aux ongles grenats et nuque étroite. Je pourrais évoquer les corps des gens croisés il y a des semaines, durant quelques secondes seulement. C'est comme ça.
Je ne range pas les images de ces corps selon des critères. Ils ne sont pas beaux, pas laids, ni femelles, ni mâles. Ils sont seulement des corps, des peaux, des visages. Des contours que je peine à appliquer à mon corps. Car contrairement à ceux que je pourrais décrire avec une précision maladive, le mien m'échappe tout le temps. Je ne sais jamais si je suis grosse ou si je suis mince, si je grossis ou si je maigris. J'évalue mal l'espace que je prends. Je ne peux bouger sans me cogner contre des meubles, des cadres de portes. Petite, j'ai marché très tôt et j'avais tellement de bleu que le pédiatre pensait que ma mère me battait. Mais non, c'est moi qui fonçais dans tout et paf, un coin tape dans le front. Mais il paraît que je ne pleurais pas beaucoup, que la douleur ne me faisait pas peur.
J'ai des amies pour qui le corps est un lieu qu'elles ne veulent pas heurter, pas déranger. Elles le souhaitent éternellement intact, dans ce qui me paraît être une momification d'un corps encore vivant. Par crainte du cancer, elles n'ont jamais pris une seule bouffée de cigarette, ni aucune drogue. Jamais. Elles savent quel aliment manger pour ne pas se rendre compte qu'elles sont en train de digérer. Au bout de combien de cafés il faut arrêter d'en consommer pour empêcher que le cœur palpite avec une vigueur déraisonnable. Par-dessus tout, elles craignent la dégradation de leurs organes.
Je me dis, pour elles comme pour moi, pour elles comme pour tous, le corps est une entité étrangère à soi. Pour le faire sien, le préserver jalousement est une stratégie parmi d'autres. Une main mise sur la chair. De mon côté, j'ai plutôt un profond désir de saccage. J'aurais voulu percer des trous dans mon corps, des ouvertures, que mon âme puisse mieux s'écouler vers mes pieds, mes mains, ma bouche. J'aurais voulu porter mes pensées comme des manteaux. Je me disais, les gens me voient et m'associent à ces courbes, ce sourire, ces cheveux. Pourquoi ces courbes, ce sourire, ces cheveux, devraient-ils agir comme signification de moi ? Mettons le feu, Calice, et voyons quel corps surgit des flammes. Et peut-être que ces flammes feront fondre ma peau tout contre mon âme. Peut-être que par alchimie, l'un deviendra l'autre. Qu'il n'y aura plus ce que je sens être une séparation irréconciliable. Pardon. Je me dis, mettons-le à l'épreuve ce corps, que le fond et la forme coïncident.
Il y a eu de grosses mises à l'épreuve, d'autres plus ténues. Lire jusqu'à en avoir mal aux yeux, mal au cœur, pour sustenter mon autre obsession, la littérature. Les livres des autres agissent depuis longtemps comme ma nourriture, mon chemin de croix, mon refuge. Me cloîtrer dans les livres et oublier un instant que je suis dans mon corps. M'essayer par le biais des livres à des corps de substitution. Emprunter ceux des écrivaines de leurs personnages. Des corps qui agissent comme des prothèses, comme des talismans, qui me révèlent à moi-même parce qu'il m'agence mes sensations au travers de combinaisons que je n'aurais sans doute jamais su, jamais pu formuler. Dans la littérature, je rejoue ainsi peut-être une nouvelle fois ce rapport entre familiarité et étrangeté que je ressens à être emmuré dans ma peau. Lire dans les mots des autres ce que je croyais farouchement intime, farouchement personnel, constitue à la fois une trahison et un soulagement.
Et parfois, tout simplement, certains mots, certains livres, certains corps ne me disent rien. Ces expériences demeureront irréductibles, étrangères, et c'est tant mieux. Ce qui fait corps pour l'autre ne fait pas nécessairement corps pour soi, et il faudra fouiller longtemps, ratisser poèmes et récits, nouvelles et essais, patiemment, afin de trouver ces bouts de bras, ces bouts de jambes, ces morceaux de corps que nous emprunterons, que nous volerons peut-être même afin de nous constituer, enfin, un corps qui nous ressemble.
Alors, dans la suite de ce qui vient d'être lu, moi je vais vous présenter un texte écrit par Etty Hillesum, extrait de son journal qui a été publié post-mortem et qui s'appelle « Une vie bouleversée ». Donc Etty Hillesum était une femme hollandaise qui a tenu donc un journal de 1941 à 1943 dans lequel elle a allongé ses pensées et ses interrogations autour de la littérature, de l'écriture, de l'intime, de l'amour et de Dieu. Son journal témoigne d'une foi indéfectible en l'homme en cette période terrible de l'histoire. Etty Hillesum était de religion juive. Elle a été déportée et elle est morte à Auschwitz en 1943. Donc, 21 novembre. Intéressant. Alors que ces derniers temps, je suis pleine d'inspiration créatrice et me sens capable de noircir des pages et des pages. Entre parenthèses, la nouvelle, la fille qui ne savait pas s'agenouiller, cette petite bonne femme Lévi, qui m'intrigue, et tant d'autres choses. Voici que tout à coup, je note ceci. Comme mordu par une vipère, je saute du couvre-lit bleu. Sous l'aiguillon d'une question pressante, oui, de cette question. Au milieu de mes problèmes, d'éthique, de vérité et de rapport à Dieu même, surgit tout à coup un problème de mangeaille. Ce serait peut-être un sujet d'analyse, après tout. De temps en temps, moins souvent qu'autrefois, cependant, je me colle une indigestion, tout simplement en mangeant trop. Faute de me dominer, donc. Je sais que je dois faire attention et tout soudain me voilà prise d'une espèce d'avidité qui résiste à tout raisonnement. Je sais que ce petit moment de jouissance, sinon, comment l'appeler, pour une bouchée de trop, je le paierai très cher. Et pourtant, rien ne peut me retenir. Il me semble tout à coup qu'il y a là un problème alimentaire, susceptible d'être approfondi. En fin de compte, c'est symbolique. Je montre sans doute la même gloutonnerie dans ma vie spirituelle. Ce besoin d'emmagasiner une foule de choses culmine parfois en d'énormes indigestions. Or, la base de cette attitude, il faut sans doute la chercher ici. Ce n'est pas sans rapport avec ma chère maman. Maman ne parle que de manger. Rien d'autre n'existe pour elle. Allons, mange encore un peu. Tu n'as pas assez mangé. Comme tu as maigri. Je me rappelle qu'un jour, il y a des années, j'ai vu ma mère manger lors d'un banquet réunissant des mères de famille. J'étais au balcon de la petite salle du théâtre de Deventer, où se déroulait la fête. Ma mère était assise au parterre, à une longue table, au milieu de beaucoup d'autres femmes au foyer. Elle portait une robe en dentelle bleue, et elle mangeait. Elle y était entièrement absorbée. Elle mangeait avec avidité et passion. À la voir ainsi, telle que je la découvrais soudain du balcon, en vue plongeante, quelque chose en elle m'affectait terriblement. J'éprouvais de la répugnance et en même temps une folle pitié. Je ne pouvais me l'expliquer. Cette gloutonnerie semblait indiquer qu'elle avait peur d'être privée de quelque chose dans la vie. Elle semblait terriblement malheureuse. Et en même temps, il y avait en elle une animalité repoussante. Du moins la voyais-je ainsi. En réalité, il y avait là une mère de famille qui mangeait de la soupe. Mais si je pouvais comprendre tout ce que je ressentais alors moi-même, l'état d'esprit où j'étais en l'épiant, je comprendrais du même coup beaucoup mieux ma mère. Cette peur de ne pas tout avoir dans la vie, c'est elle justement qui vous fait tout manquer. Elle vous empêche d'atteindre l'essentiel. Psychologiquement, on pourrait peut-être établir la formule suivante. Écoutez donc la pauvre profane. Je ressens vis-à-vis de ma mère une opposition qui n'est pas encore tombée, et c'est pourquoi je reproduis fidèlement les comportements que je déteste chez elle. Au fond, je n'attache pas tant d'importance à la nourriture, même si manger a des côtés sympathiques et agréables. Mais il ne s'agit pas de cela. cette façon de me coller des indigestions de propos délibérés, ou plutôt contre toute raison, cela cache quelque chose. C'est évidemment à mettre en relation avec une forte aspiration à l'ascèse, à une vie monacale, faite de pain de seigle, d'eau claire et de fruits. On peut avoir faim de vie, mais l'avidité de vie vous fait passer juste à côté du but. Je vois que tu n'es jamais en peine de vérité profonde. Mais un fait reste intéressant. Tandis que je sens rôder en moi une dépression de fond, qui ne trouve toujours pas à s'exprimer, je me suis trouvée, pour ainsi dire, forcée de consacrer quelques mots à mon estomac et à ce qu'il peut cacher. Voici un autre extrait. Samedi matin. J'espère qu'un moment viendra dans ma vie où je serai seule avec moi-même et avec une feuille de papier. Mais je redoute aussi ce moment où je ne ferai rien d'autre qu'écrire. Je n'ose pas encore, je ne sais pas pourquoi. Mercredi, je suis allée au concert avec S. Quand je vois beaucoup de gens réunis, je voudrais écrire un roman. À l'entracte, j'ai eu besoin d'un crayon et d'un bout de papier. Pour écrire quelque chose, je ne savais pas encore quoi. Je voulais filer un peu mes pensées. Au lieu de quoi, S m'a dicté des notes à propos d'un malade. Tout à fait passionnante d'ailleurs, et fort curieuse. Mais une fois de plus, j'ai dû m'effacer, rendre compte de soi-même, avoir un besoin constant d'écrire sans oser encore l'assumer. D'une façon générale, je refoule trop de choses, je crois. Il me semble souvent que je possède une personnalité assez forte, mais ce que je montre aux autres, c'est un visage d'éternel intérêt, d'éternelle amabilité et d'éternelle bonté. Et ce, souvent aux dépens de moi-même. En vertu de cette théorie, un être humain doit être assez sociable pour ne pas imposer aux autres ses humeurs. Mais ceci n'a rien à voir avec des humeurs. À force de refouler tant de choses, je deviens asocial d'une autre façon, en refusant de parler à qui que ce soit pendant des jours. Il y a quelque part en moi de la mélancolie, de la tendresse et aussi un peu de sagesse qui cherche une forme. Parfois des bribes de dialogue me traversent, des images et des personnages, des atmosphères. Une percée soudaine vers ce qui doit devenir ma vérité personnelle. Un amour des êtres humains pour lequel il me faudra me battre. Lutter non pas en politique ou dans un parti, mais en moi-même. Mais une fausse honte me retient encore d'assumer cet amour. Et Dieu, la fille qui ne savait pas s'agenouiller a fini par l'apprendre, sur le rude tapis de cisale d'une salle de bain un peu fouillie. Mais ces choses-là sont encore plus intimes que la sexualité. Cette évolution en moi, l'évolution de la fille qui ne savait pas s'agenouiller. Je voudrais lui donner forme dans toutes ses nuances.